Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 90 ans en Égypte, dans la vallée des rois, une équipe d'archéologues faisait la plus fantastique des découvertes. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous voyez, nous sommes connectés maintenant.
Tout va bien.
Je suis à l'antenne. C'est en effet la plus belle tombe royale jamais découverte qui remontait à la lumière en ce début de mois de novembre 1922. Il y a donc 90 ans, quasiment jour pour jour. Nous avons à l'esprit le télégramme adressé par le découvreur à Howard Carter, à son mécène Lord Carnarvon. « Avons enfin fait merveilleuse découverte dans vallée, splendide tombeau, sceau intact, avons refermé chantier jusqu'à votre arrivée. Félicitations. »
Et on imagine que le destinataire de ce télégramme n'a pas été long à boucler ses valises.
Ah ben non, juste le temps du voyage, Julia, et il était à pied d'œuvre pour vivre, disons-le, le plus grand moment de sa vie. Je vous propose de l'accompagner tout simplement et d'assister, nous aussi par-dessus leur épaule à tous deux, à l'une des plus belles découvertes de l'histoire de l'archéologie.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
J'ai à l'esprit une émission d'Alain Decaux souvent diffusée, rediffusée et qui aura marqué mon adolescence, la découverte par l'équipe de l'archéologue britannique Howard Carter d'une tombe antique recherchée entre toutes, celle du jeune pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois. C'était donc en novembre 22, il y a 90 ans. Alain Decaux, faut-il le préciser, savait mieux que quiconque faire monter la tension jusqu'au dévoilement libérateur. Il savait faire vibrer les propres termes de l'archéologue, tels qu'on les découvre dans son journal. Je cite Howard Carter. « Lentement, comme cela nous sembla long, les derniers gravats qui encombraient le bas de la porte furent déblayés. L'heure décisive était arrivée. Les mains tremblantes, je pratiquais une petite brèche dans la porte en haut à gauche. » J'y introduisis une tige d'acier qui ne rencontra que le vide et nous allumâmes des bougies pour savoir si l'air était toxique. Puis, élargissant la brèche, j'éclairai de l'autre côté de la porte afin de savoir ce qui s'y trouverait. Lord Carnarvon, Lady Evelyn et Callender se tenaient derrière moi, fiévreux, attendant le verdict. D'abord, je ne distinguais rien car le courant d'air chaud faisait vaciller la bougie. Puis, mes yeux s'accoutumèrent à la lumière et lentement, les objets qui étaient dans la chambre sortirent de l'ombre. Il y avait des animaux étranges, des statues et de l'or partout. Tout de l'or resplendissant. Pendant un moment qui parut à mes compagnons une éternité, je demeurais muet, paralysé par l'émerveillement, quand Lord Carnarvon, incapable d'attendre plus longtemps, me demanda anxieusement « Voyez-vous quelque chose ?» Je ne pus que balbutier « Oui, et c'est merveilleux. » Alors, élargissant encore l'ouverture afin de voir ensemble, nous glissâmes une torche électrique. « Je vois des merveilles !» s'exclamait le conteur historique sur les petits écrans d'alors. « Je vois des merveilles !» Et nous les voyons tous. Amas inespérés de trésors antiques, en or massif, surgit intact de la nuit des temps. À l'époque, il y a 90 ans, déjà plus de 3 générations, la découverte de Carter et Carnarvon a fasciné les foules et fait la une du Times. Or, cette publicité n'était pas injustifiée. Force est d'admettre qu'on n'a jamais fait mieux depuis. Aujourd'hui, 3 grandes questions se posent encore concernant la découverte elle-même et puis le sort des découvreurs et finalement concernant Toutankhamon. Dans un instant, en compagnie de mes invités, je vous propose de répondre à ces différentes questions. Nous allons revivre cette découverte archéologique majeure et voir quels efforts inouïs elle récompensait. Nous nous poserons bien entendu la question de la malédiction réelle ou supposée du tombeau. Enfin, nous tâcherons de rassembler le peu de certitude qu'on a sur ce pharaon éphémère et sur l'époque pour le moins troublée où il régna. Toutankhamon, figurez-vous, est mort un jour de janvier 1342 avant notre ère. Oh, le calcul est facile, ça fait bien plus de 3300 ans.
The Skull, extrait de la BO des Aventuriers de l'Arche Perdue, un film de Steven Spielberg. Nous parlons aujourd'hui de la découverte du tombeau de Toutankhamon.
l'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, Jean-Claude Simoen, qui est écrivain, historien, éditeur et auteur, notamment de l'épopée de l'archéologie, réédité en Tempus, c'est chez Perrin.
On pourrait dire de Jean-Claude Simoen qu'il est tout simplement un honnête homme, au sens où les grands siècles, le 17e et le 18e l'entendaient. Il sait à peu près tout sur tout, des clartés d'une immense culture. Merci Jean-Claude Simoen d'être
beaucoup de curiosité, plus qu'une immense culture.
Mais ça va de pair, généralement. L'épopée de l'archéologie chez Fayard, c'est votre ouvrage. Vous étiez venu nous en parler, sous-titré « Savants et aventuriers ». Ils étaient souvent les deux à la fois à l'époque. Alors, ce qu'il faut que nous expliquions un peu, c'est dans quel contexte a lieu cette découverte de 1922. Et d'abord, à quel endroit? Nous sommes dans la Vallée des Rois. Ça se trouve où, cette Vallée des Rois?
Alors, cette Vallée des Rois, si on a le regard tourné vers la Méditerranée, c'est-à-dire vers Alexandrie, elle est à main gauche de notre description. Et la Vallée des Rois, elle est très célèbre parce qu'on rentre tout de suite dans la vallée on rentre là. On a Louxor Carnac sur la droite et sur la gauche, on a les colosses de même nom. Juste en face des colosses de même nom, on a le fameux temple de l'Arena de Chepsout, Deir el-Barawi. Sur la droite de Deir el-Barawi, nous arrivons à la Vallée des Nobles, la Vallée des Reines et la Vallée des Rois.
Alors, dans cette Vallée des Rois, de nombreuses recherches avaient été faites, et ce depuis longtemps déjà. Ce que vous nous montrez dans votre ouvrage, c'est que Carter était loin d'être le premier archéologue à se colter à cette Vallée des Rois.
Howard Carter est venu par récupération à c'est l'archéologie, ça, oui. puisqu'il travaillait avec le grand archéologue William Petrie. C'est d'ailleurs William Petrie et Maspero qui l'ont recommandé à Lord Carnarvon, quand Lord Carnarvon, pour venir soigner sa santé déficiente, a décidé de mettre les pieds en Égypte et s'est investi dans la Vallée des Rois en achetant une concession.
Lord Carnarvon faisait partie de ces aristocrates britanniques qui possédaient de grandes collections d'antiquités en général et d'égyptologie en particulier. Il était collectionneur lui-même et il espérait bien tirer des fouilles qui étaient réalisées, un certain nombre de pièces.
Il faut que les auditeurs, les auditrices comprennent bien que l'Égypte pharaonique était un champ de fouilles hallucinant où venaient des gens qui étaient à la fois des érudits, des savants et aussi quelque peu, quelquefois les bords étaient très larges, des trafiquants d'antiquités à la solde des grands collectionneurs du monde entier et pas uniquement pour constituer les grandes collections des musées de l'Europe entière et d'ailleurs des États-Unis également.
Depuis la célèbre expédition de Bonaparte, une vraie rivalité était constamment alimentée, réalimentée entre Français et Britanniques, bien entendu. Vous venez de citer le nom de Maspero, il faut peut-être saluer ce grand égyptologue.
Oui, il est le successeur d'un autre français qui est Auguste Mariette.
Exactement.
Qui lui est venu à l'égyptologie par récupération. C'est en fouillant les papiers d'un lointain cousin qui s'appelait Nestor Lott, qui était d'ailleurs très doué, y compris avec un très joli talent d'aquarelliste. Il nous a laissé des aquarelles sur l'Égypte pharaonique qui sont assez exceptionnelles. Voilà. Et c'est en fouillant ces papiers qu'il a été pris de fièvre pharaonique, on va dire ça comme ça, pour faire court.
Là, c'était pas du tout une malédiction à l'époque, au contraire.
Certes.
Alors, Lord Carnarvon se voit donc présenter Howard Carter par Sir William Petrie, vous nous le dites.
Et Maspero.
Il va financer les recherches de Carter, avec d'ailleurs une bonne constance, parce que ça dure longtemps. Et que cherche exactement Howard Carter?
Il cherche la fameuse tombe dont on avait perdu la trace en 1917.
Mais pourquoi avait-on perdu sa trace? C'est ça qu'il faut peut-être expliquer.
Je pense que Pascal Vernus répondrait plus facilement que moi sur ce point de détail qui personnellement échappe à ma culture.
Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que pendant très longtemps, Carter cherche, fouille partout. Il a repéré donc la tombe de Ramsès VI. Et l'on sait que juste à côté de l'entrée de cette tombe de Ramsès VI se trouve...
Alors, il y a un amoncellement de gravats et il y a des cabanes d'ouvriers qui obstruent, mais nous ne le savons pas encore à cette époque-là, l'entrée de la tombe de Toutankhamon. Et c'est alors qu'il était, on va dire, prêt d'abandonner ses recherches et surtout le financement de l'or Carnarvon,
qui commençait à se lasser,
à s'épuiser sérieusement, eh bien, il a cette intuition, on peut parler comme ça, de faire déblayer les cabanes d'ouvriers. Et là,
sur le quatrième cabane, dit-on,
On trouve le premier corridor.
C'est-à-dire qu'en fait, on découvre des pierres qui semblent être l'amorce d'un escalier.
Absolument.
Donc il va falloir creuser, mais avant de creuser, on prévient évidemment le commanditaire, celui qui finance les opérations.
On envoie le fameux télégramme.
Voilà, on va laisser à Lord Carnarvon le temps d'arriver. Pendant ce temps-là, ça permet d'ailleurs de réunir un certain nombre de spécialistes pour être certain que les fouilles seront effectuées sous les meilleurs auspices et dans des conditions scientifiques. Déjà, on est en 1922, tout de même.
Alors on a beaucoup de chance parce que cet homme qui va être récupéré par l'archéologie, qui est une science très récente, hein. Je parle évidemment de Howard Carter, il va faire ça avec beaucoup de soin, avec méticulosité, c'est-à-dire qu'il va prendre son temps.
Vous nous parliez de Pascal Vernus, il est avec nous, il nous rejoint dans un instant pour creuser, nous allons creuser tous les trois si je puis dire, jusqu'à la porte de la tombe de Toutankhamon.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous célébrons un anniversaire aujourd'hui sur Europe 1, le 90e anniversaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, Franck.
Toutankhamon nous agace un peu, nous les égyptologues, écrit Pascal Vernus dans son somptueux dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, même s'il ne cesse d'œuvrer de façon posthume pour la popularité de notre discipline, désormais indéfectiblement liée à sa plus grande gloire. Qu'il illustre bien les ironies de l'histoire. Voici qu'un sort malin a propulsé 3 millénaires et 3 siècles après sa mort ce roitelet diaphane au premier rang des pharaons dans notre moderne représentation de l'Égypte ancienne. Il y côtoie, que dis-je ? Il y dépasse Khéops malgré sa pyramide et Ramsès II malgré sa kyrielle de monuments, pour ne rien dire de Snéfrou, ses Osiris Ier, Toutmosis III ou Amenhotep III, que les connaisseurs comptent parmi les plus grands. Quels exploits a donc accompli Toutankhamon ? Eh bien, il a accompli l'exploit d'avoir une tombe qui nous est parvenue intacte, tout simplement. Bonjour, Pascal Vernus.
Bonjour, oui, effectivement, vous l'avez bien dit. C'est le pharaon qui méritait le moins d'être connu, qui est le plus connu. Ça, c'est fait partie de l'ironie de l'histoire. Mais en même temps, ça s'explique. Si sa tombe a échappé au pillage qui était de règle, c'est parce que justement c'était un petit pharaon et que sa tombe était toute petite par rapport aux tombes habituelles de la Vallée des Rois que Jean-Claude Simoen connaît parfaitement.
On imagine ce qu'aurait pu être l'ébahissement du monde entier si les tombes des grands pharaons avaient pu nous parvenir intactes, sauf que ça n'est pas le cas. J'ai rouvert le journal de Howard Carter qui nous dit que le 4 novembre, donc ça fait 90 ans hier, à peine étais-je arrivé sur le chantier, dit-il, que je fus frappé par un silence inhabituel. Le travail avait cessé et je compris qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire. En guise de salut, on m'annonça que dans le sous-sol de l'une des huttes, on avait découvert une tranchée creusée dans le rocher. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais les déblaiements faisaient bien apparaître l'ouverture d'un passage abrupt creusé dans le rocher à 4 mètres environ de l'entrée de la tombe de Ramsès VI et à la même profondeur sous le niveau actuel de la vallée. Alors, on attend donc l'arrivée de Carnarvon, on creuse, et puis c'est la découverte dont je faisais part au tout début de cette émission. Je vois des merveilles, et quelles merveilles ! On découvre ce mobilier funéraire absolument extraordinaire, et cependant, cette tombe ne va pas être découverte en une fois, c'est tout un travail. En fait, l'ouverture et l'investigation de la tombe de Toutankhamon prirent 4 années, nous dit Jean-Claude Simoen dans l'épopée de l'archéologie.
Et 10 années pour retirer un à un les objets des différentes salles. Même si la tombe était petite, elle était très très encombrée.
Il y avait 5000 objets.
Ouais, c'est ça, et des objets, alors vraiment, il y a absolument de tout. Hein. C'est une sorte de bric-à-brac extraordinaire du reste, parce qu'on rêve bien entendu de l'effet que ça a dû produire sur les découvreurs. Il y avait quel genre d'objets ? Donc du mobilier au sens...
Alors il y avait 2 types d'objets. Une tombe sert premièrement à mettre des objets qui aident le pharaon à revivre dans l'au-delà. Il y a donc des objets rituels, des offrandes, des huiles. Bon. Et un deuxième type d'objet, ce sont les souvenirs de la jeunesse du pharaon. On a retrouvé, par exemple, une boîte sur laquelle il y avait écrit « Le sac qu'avait le pharaon lorsqu'il était jeune. Et puis, il y a aussi des objets qui venaient de ses parents ou de ses prédécesseurs. Il y a donc, pour bien comprendre le Capharnaüm, il faut savoir qu'il y a deux types. Hein. Le type rituel, d'abord, et le type souvenir du pharaon
dont
disparu.
En quelque sorte.
Voilà, exactement.
Trône, coffre, siège, boîte, vase, trompette, canne, bijoux, chasse-mouche, porte-torche, sceptre, chariot démonté, statuette, arme, lit funéraire, petit naos, c'est-à-dire une sorte de petit tabernacle, panier, bouquet de fleurs et de feuillage. Quel bric-à-brac extraordinaire.
Alors le plus cocasse, c'est que dans une boîte, on a trouvé une mèche de cheveux de la grand-mère de Toutankhamon qui s'appelait la reine Ti. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait le passé aussi qu'on mettait dans la tombe, c'est assez cocasse.
Alors justement, oui, parce que Toutankhamon, c'est toute une famille.
Jean-Claude Simoen, oui. C'est ça, oui, bien sûr. Mais alors ça, on voilà. va y venir. Dans la dernière partie de cette émission, j'aimerais qu'on se penche un peu sur le personnage lui-même, sur sa vie, sur son règne, et puis sur ce qui s'était passé juste avant son avènement, c'est-à-dire cette incroyable révolution monothéiste, cette révolution dite amarnienne, qui nous emmènera du côté d'Akhenaton et de Néfertiti. Mais pour le moment, nous sommes bien en 1922, nous sommes il y a 90 ans. Quel a été le retentissement immédiat de la découverte, Jean-Claude Simoen ?
Planétaire. C'est un événement considérable. C'est ce qui fait d'ailleurs la gloire de Toutankhamon, comme l'expliquait précédemment Pascal Vernus et comme il l'a écrit dans son dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique. C'est-à-dire que ce pharaon qui n'a régné que
9 ans.
Un peu moins de 10 ans, oui, est mort à 18 ou 19
c'est
ans.
Ça,
il est devenu pharaon à l'âge de 9 ans. Il n'était pas fait pour laisser une trace dans l'histoire pharaonique, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien par rapport à tous ses grands prédécesseurs, y compris son père.
Absolument.
Voilà, c'est-à-dire Akhenaton, qu'on devrait appeler plutôt Amenhotep et surtout pas Amenophis, comme nous l'ont légué les Grecs. Voilà, pour que les choses soient un tout petit peu claires. Donc le rayonnement, la répercussion a été immédiatement planétaire.
Et du fait tout simplement de la somptuosité des objets, du matériel archéologique découvert, disons-le, de son ancienneté certes, du caractère inviolé de la tombe sans doute, mais de la beauté aussi des objets.
En partie inviolé. Hein, la tombe avait visitée deux fois, mais immédiatement après qu'elle avait été remplie. Mais...
Je ne sais pas si c'est vous qui avez demandé à Frédéric de nous écrire, Jean-Claude Simoen, mais il va exactement dans votre sens habituel. Carter Schliemann, certes découvreur de sites magnifiques, nous dit-il, clinquant, ça je lui laisse la responsabilité du propos, mais quand reconnaîtrons-nous des Paul Vouga, sites de l'Athènes et autres lacustres, des Péronie, des Breuil et beaucoup d'autres? C'est vrai qu'évidemment, cette égyptologie, dans ce qu'elle peut avoir de très somptueux et d'un peu mirifique, fait oublier le reste de l'archéologie, il faut bien le dire.
Oui, je dirais pas ça comme ça, parce que restons dans la vallée des rois. Je veux dire, pourquoi subitement, il faut expliquer aux auditeurs pourquoi, car ça a été une véritable révolution, au début de la 18e dynastie, 18e et 19e dynastie, pourquoi subitement les pharaons sont-ils venus creuser leur tombeau là, dans la vallée des rois? C'est une révolution à la fois philosophique, c'est une révolution tout court, parce que pour la première fois, donc le premier pharaon qui a creusé son tombeau dans la vallée des rois, c'est Thoutmôsis Ier. Et c'est une véritable révolution, alors, parce que pour la première fois, c'est la séparation de la tombe et du temple funéraire.
Alors on va y venir à cette histoire antique qui, visiblement, vous passionne plus que la découverte archéologique en tant que telle. Avant cela, j'aimerais dire un mot de la fameuse malédiction de la tombe de Toutankhamon.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui revient donc maintenant sur Europe 1, sur la malédiction de la tombe de Toutankhamon.
Un oiseau, c'est un rapace qui me griffe la figure. Telles auraient été les dernières paroles de Lord Carnarvon 5 mois après l'ouverture du tombeau le 5 avril 1923. Lord Carnarvon qui n'avait tout de même alors, disons-le, que 57 ans. Quelques jours plus tôt, à la mi-mars 1923, un moustique l'avait piqué alors qu'il ressortait de la fameuse tombe. Mauvaise piqûre, la plaie s'envenime et le conduit jusqu'à la septicémie. Vous pouvez compter sur la presse, évidemment, pour reproduire aussitôt l'idée d'une malédiction et l'on se met à recopier la traditionnelle malédiction aux violeurs de sépultures égyptiennes, que Nekhebet, le vautour, déchire le visage de ceux qui foulent cette tombe. Vous voyez, déchire le visage, évidemment. Si Carnarvon avait été la seule victime supposée de Nechébet, on n'en aurait sûrement pas parlé très longtemps, mais le fait est que dans les années qui ont suivi la formidable découverte, pas moins de 27 personnes, parmi les premières à avoir foulé ce sol inviolé depuis 33 siècles, à avoir respiré cet air confiné depuis si longtemps, 27 personnes en tout auront péri dans des circonstances parfois, je dis bien parfois étonnantes. Il faut dire que tout un climat d'inquiétude s'est répandu sur le chantier à l'annonce de la mort du Lord. Les ouvriers arabes n'ont pas manqué de rapporter que le canari de Carter, un canari doré, vous savez, ces petits oiseaux qui portent chance dans tous les pays arabes, ce canari avait été tué dans sa cage, victime d'un cobra. Le canari d'or a été tué par le cobra des pharaons, voilà le titre d'un journal de 1927 quand même. Cette sornette, si vous me passez l'expression, va parvenir aux oreilles d'un certain Sir Arthur Conan Doyle, qui, non sans le talent qu'on lui connaît évidemment, ne va pas tarder à divulguer tout ça. Et si, se demande-t-on à l'époque, à Londres, à Paris, bien plus qu'au Caire en vérité, et si les anciens prêtres égyptiens avaient savamment empoisonné la tombe à destination des éventuels pilleurs de trésors futurs ? Or, quelque temps seulement après la mort de Carnarvon, c'est au tour de l'archéologue Breasted de disparaître après 6 semaines d'une mystérieuse maladie. Puis le professeur Lafleur est emporté en une nuit. Le colonel Aubrey, il y a un côté Cluedo un peu dans cette liste, dans ces noms. Le gouverneur local, l'égyptologue Goodyear, 3 morts suspectes en 1924, 1 en 1925, 6 en 1926. Vous comprenez comment la rumeur peu à peu prend corps. Alors attention, pour la plupart d'entre eux, on peut dire que les causes de la mort n'ont rien d'énigmatique. Paludisme pour l'un, infection pour l'autre, voire même suicide du reste. Le seul vrai point commun entre ces disparus, c'est d'avoir été parmi les premiers à descendre dans la tombe de Toutankhamon.
Sur Europe 1 de la bande originale du film La Momie.
Une sorte de psychose s'est répandue en cette fin des années 20 parmi les nombreux collectionneurs d'art égyptien, dont certains effrayés vont se hâter de faire don au British Museum de leurs pièces les plus précieuses. Après tout, et si elles étaient porteuses de poison, ou pire, porteuses du mauvais œil ? En vérité, sur les 27 décès recensés parmi les personnes ayant de près ou de loin côtoyé l'équipe de Carter, 12 seulement peuvent, et encore, si l'on y prête une attention soutenue, peuvent montrer des symptômes plus ou moins convergents. Je m'empresse d'ajouter que cela fait 12 ou 27 personnes, si l'on est très large, sur plus de 160. Certains proches collaborateurs de Carter et Carnarvon ont vécu longtemps. Lacone est mort qu'en 1963. Sir Alan Gardiner aussi, à l'âge de 74 ans. Quant à Douglas Derry, qui avait retiré lui-même les bandelettes de la momie du jeune pharaon, il ne s'éteindrait qu'à l'âge respectable de 86 ans. Au milieu des années 80, une jeune scientifique alsacienne, le docteur Caroline Stenger-Philippe, affirmait avoir résolu l'énigme. La malédiction aurait en vérité pris la forme d'un micro-champignon vengeur, créant une alvéolite allergique extrinsèque, autrement dit une allergie aux moisissures de la tombe. Toutefois, le problème, c'est que le champignon en question, qui s'appelle l'Histoplasma capsulatum, se développe principalement dans les fientes de chauves-souris. Or, la tombe de Toutankhamon était hermétiquement close. Aucune chauve-souris n'aurait pu y pénétrer. Alors, est-ce que le champignon aurait pu prospérer sur une autre souche ? C'est extrêmement difficile à savoir quand une zone a été fermée pendant 33 siècles. Ce que l'on peut noter, c'est que les 12 savants connus pour avoir présenté à peu près le même type de symptômes ont fini par mourir de complications pulmonaires. Et là, certains scientifiques nous disent que c'est la faute d'une autre spore, l'Aspergillus flavus, et ça, pour tout vous dire, c'est bien possible. Des chercheurs de Cracovie ont en effet démontré que ce très résistant Aspergillus flavus, moi j'aime pas l'Aspergillus parce que c'est ce qui a tué mon perroquet, vous savez, donc j'ai une petite dent contre ce microbe, évidemment.
Ah oui.
Cet Aspergillus serait capable en vérité de se reproduire après plus de 3000 ans d'isolement. pourquoi pas. C'est de toute façon plus crédible que la pure et simple malédiction du vautour, admettez. Un épidémiologiste australien, Mark Nelson, dont les travaux ont été publiés il y a une dizaine d'années, a travaillé sur 25 des 27 victimes supposées de la malédiction et il a conclu qu'ils sont morts en moyenne à 49 ans, après avoir survécu en moyenne pendant 20 ans tout de même. Mais on regrette que ces calculs n'aient pas plutôt porté sur les 12 victimes qui présentaient des symptômes similaires. En 1992, l'affaire a rebondi lors de l'annonce d'un universitaire égyptien, le docteur Sayed Mohamed Tebat, qui avait relevé des traces importantes de radioactivité sur des momies du musée du Caire. « Je pense, disait ce scientifique, que la radioactivité s'est accumulée au cours des siècles dans les tombes, atteignant des niveaux très dangereux pour la santé. » Inutile de vous dire que tous les médias, bien sûr, ont répercuté les déclarations de ce monsieur devant le scepticisme pour le moins amusé des égyptologues. Car disons-le, au sein de la communauté savante, l'ironie est de rigueur sur le sujet et la malédiction de Toutankhamon est regardée comme une bonne blague ou plutôt comme l'effet d'une campagne de presse orchestrée par les organes concurrents du Times. Car il faut savoir qu'en 1922, le Times avait obtenu l'exclusivité sur la découverte et sur ses retombées. De l'effet dévastateur de certaines exclues tout de même. Howard Carter, en tout cas, ne mourra qu'en 1939, soit 17 ans après sa découverte, et de sa belle mort, précise-t-on, mais seulement à 67 ans tout de même. 5 ans avant de trépasser, il avait déclaré, interrogé une fois de plus sur la fameuse malédiction, « Toute personne saine d'esprit devrait rejeter ses inventions avec dégoût ». Il est vrai qu'au temps de Carter, personne ne parlait encore de l'insidieux Aspergillus. Y a-t-il eu ou non malédiction de Toutankhamon ? Nous y venons dans un instant avec nos deux illustres et très érudits invités.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de l'historien écrivain Jean-Claude Simoen, de l'égyptologue professeur à l'école des hautes études Pascal Vernus, et nous parlons de Toutankhamon, et comme promis avant la pub, de la malédiction.
Alors, y a-t-il eu malédiction, Pascal Vernus ? Je vous ai vu beaucoup hausser les épaules pendant ce récit.
Oui, bien sûr, s'il y a une malédiction, c'est la malédiction qui s'abat sur l'égyptologie à cause des fantaisistes, hein. Je pense que c'est surtout ça. Bon, bien entendu, il n'y a absolument aucune malédiction, j'ouvre simplement une petite parenthèse. Il y avait dans certaines tombes des formules de malédiction. On disait, celui voilà, qui ça, hein. transgressera cette tombe, son destin sera le crocodile. Mais dans la tombe de Toutankhamon, il n'y avait aucune de ces formules.
Pas dans celle-ci.
Donc déjà, premièrement. Deuxièmement, quand vous regardez un peu les faits, d'ailleurs vous l'avez dit, ce que vous avez dit suffit. Je crois qu'il faut oublier tout ça. C'est une création à la fois de journalistes pour vendre de la copie. Et puis vous avez bien fait valoir aussi qu'il y avait des problèmes de concurrence également. Donc,
on est à une époque où la presse papier, évidemment, et s'arroge évidemment l'intégralité des nouvelles, hein, puisqu'il n'y a quasiment pas de radio et pas du tout de télévision, bien sûr, en 1922. Et ces grands journaux se font une guerre terrible et on n'a pas aimé du tout que Lord Carnarvon donne une exclusivité au Times, qui a duré quand même 2 ans, l'exclusivité.
On peut dire, c'est une presse à sensation, même si la découverte est de taille. Moi, je pense que tout ça, là, mais cette fameuse malédiction, Pascal Vernus a parfaitement raison, c'est foutaise et balivernes. Parce que, pour faire court, Lord Carnarvon est mort tout simplement d'une pneumonie. Quant à Howard Carter, après des années passées dans la vallée des rois, a fouillé, a trouvé cette tombe royale de Toutankhamon. Il est mort d'épuisement, vieux et complètement épuisé.
Oui, mais épuisé, mais heureux, si je puis dire.
Et alors, quelque peu trafiquant.
Alors, justement, nous allons parler de Toutankhamon lui-même, hein, du jeune pharaon. Je dis jeune parce qu'il semblerait qu'il avait 18 ans à peu près il est mort. En fait, le petit roi a deux grands mérites, écrivez-vous Pascal Vernus dans votre dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique chez Plon. D'une part, il s'est tout simplement donné la peine de naître durant l'épisode le plus étonnant de l'histoire pharaonique, la révolution amarnienne. Alors ça, c'est très important, on va y revenir bien entendu, et d'en scander la clôture par son règne. D'autre part et surtout, il s'était fait ménager une tombe dont la redécouverte en 1922 a suscité dans le public un intérêt qui ne se dément pas. Ça, je pense que nous l'avons bien montré. Alors, qui était-il, ce Toutankhamon ? Avant de parler de la révolution amarnienne et de son règne, il faut peut-être dire ce que l'on peut savoir du bonhomme lui-même. C'était un jeune homme.
Alors c'était un jeune homme dont on pense que le père était Akhenaton, ou Akhenaton, je le dis.
Akhenaton.
On est presque sûr que son père était Akhenaton. Le problème, c'est sa mère. Il y a plusieurs thèses qui se disputent. Soit c'était Néfertiti, la fameuse Néfertiti, soit c'était une des favorites d'Akhenaton qui s'appelait Kiya ou Kiyé, selon les égyptologues. Voilà, c'était un petit être un peu insignifiant.
On pense qu'il était même peut-être un peu infirme.
Alors justement, il avait une bonne taille. Il mesurait 1m67, ce qui est pas mal pour l'époque, mais il avait deux problèmes physiques. D'une part, il avait des problèmes avec les pieds, il avait des malformations congénitales, enfin pas congénitales du pied, et d'autre part, il avait une dent de sagesse incluse qui aurait pu causer des désagréments et peut-être même d'une septicémie. Voilà les deux choses dont on est sûr, sur Toutankhamon.
Est-ce qu'on sait de quoi il est mort? Parce que souvent, grâce aux momies, on peut les enquêteurs d'aujourd'hui sont capables de nous dire de quoi sont morts les pharaons.
Alors justement, on a fait une étude très sérieuse au scanner et on n'a pas pu déterminer une cause précise de la mort. Vous savez qu'il y avait une thèse qui racontait
qu'il avait été assassiné.
Mais en réalité, on s'est aperçu que le soi-disant caillot de sang qu'il avait à l'arrière du crâne, c'était tout simplement de la résine que l'on avait mis dans le crâne pour le remplir après extraction de la cervelle. Par conséquent, ça ne tient pas debout. Non, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que la dent de sagesse incluse a pu créer une septicémie, ou peut-être aussi que sa blessure réelle, sa réelle à la jambe, a pu également lui causer des désagréments qui ont abouti à sa mort. Mais c'est les deux seules choses qu'on peut dire. On n'a aucune preuve sérieuse. On a vu aussi qu'il avait peut-être des restes de fièvre sur lui, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort de ça, parce que vous savez, on peut être porteur sain de ce genre de fièvre.
Évidemment, du fait de la célébrité de la tombe, on a fait des recherches sur le personnage. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a inversé la logique, en quelque sorte, et on a voulu à toute force savoir d'où il venait, qui il était, comment il avait régné, qui étaient ceux qui l'avaient conseillé et peut-être même manipulé.
On a même fait des recherches d'ADN, c'est-à-dire le docteur Zahri Awaz, dont on parlait tout à l'heure très rapidement, avec des savants, c'est-à-dire des gens sérieux, ont fait des investigations d'ADN, et donc on est à peu près certain, comme le disait à l'instant Pascal Vernus, que le père de Toutankhamon, c'est Akhenaton, c'est-à-dire Amenhotep.
Oui. Et cet Akhenaton est un personnage extraordinairement important puisqu'il va être à l'origine, pour autant qu'on sache tout, il va être à l'origine d'une véritable révolution de toute la civilisation égyptienne. Il est le promoteur du monothéisme et cette révolution s'appelle la révolution amarnienne. Nous y venons dans un instant. Nous allons essayer de voir ce qui s'est passé en Égypte à ce moment-là et en quoi le règne de Toutankhamon finalement est la clôture de cette période de très grands troubles. Un mot sur le message que par Facebook nous envoie Stéphane qui nous signale un DVD intitulé « La vérité sur Toutankhamon ». Ceci, nous dit-il, pour découvrir les véritables raisons du décès du jeune souverain. Ah, si seulement on pouvait conclure aussi facilement.
Et nous sommes aujourd'hui, Franck, avec vos invités au cœur de l'histoire de l'Égypte ancienne.
Et oui, et à un moment, peut-être la fracture, la cataracte essentielle de cette histoire égyptienne, c'est-à-dire au moment où le pharaon Toutankhamon, que je ne dise pas de bêtises, que le pharaon Toutankhamon, oui c'est bien ça, va révolutionner la religion en fait. Akhenaton, j'étais encore sur notre jeune Toutankhamon qui va lui succéder, on va voir dans quelles conditions. Alors, le prédécesseur de Toutankhamon, c'est Akhenaton, et qui est-il ce personnage? Fascinant personnage.
C'est le fils d'Amenhotep III, le pharaon sous le règne duquel l'Égypte a atteint son acmé, pratiquement. Et donc ce jeune pharaon, il s'appelle Amenhotep IV au début, j'insiste bien là-dessus.
C'est son titre normal dans la titulature habituelle.
Est un féru de religion et il supporte impatiemment le dogme en place. Vous savez que l'Égypte ancienne a une religion monolithique qui est restée telle qu'elle-même pendant 3500 ans, sauf justement à cette époque.
Monolithique mais polythéiste, très polythéiste, avec tout un panthéon très nourri.
Mais cette religion tourne autour du dieu Amon, qui est le premier de tous les dieux. Et alors, il arrive que le jeune pharaon Amenhotep IV ne supporte plus le dogme qui veut que le soleil soit inconnaissable. L'idée fondamentale de Amon, c'est que la réalité du disque solaire, elle est cachée. Et on voit le soleil, bien sûr, mais derrière, il y a une réalité inconnaissable. Il va renverser cette thèse. Et pour lui, il va dire, c'est pas vrai, tout l'être du soleil se manifeste dans sa visibilité. Et il va appeler le soleil Aton. Il va donc totalement renier l'idéologie dominante. Il va se réfugier dans une capitale qu'il crée pour les circonstances qu'on appelle Akhenaton, et qui est située sur le site de Amarna. C'est pour ça qu'on appelle l'époque amarnienne. Et pendant 16 ans, il va créer sa petite religion à lui, en laissant de côté totalement les affaires du pays.
Quand vous dites sa petite religion à lui, c'est une grande religion qu'il impose, en fait.
Hein, alors, c'est ça, il l'impose à un cercle, à une camarilla de fidèles, mais ailleurs, en Égypte, la religion traditionnelle subsiste encore. Et alors, il va régner pendant 16 ans, et à sa mort, bien entendu, il va avoir un retour à l'ordre ancien. Alors, ce qui est très amusant, parce que ça touche tout en Camon, l'un de ses plus fidèles sectateurs, il s'appelait le Haï, qui était donc le fidèle des fidèles d'Akhenaton, à la mort d'Akhenaton, va prendre la tête du parti pour le retour à l'ordre ancien. C'est un exemple extraordinaire.
C'est le Talleyrand de l'époque, en fait.
Exactement.
Hein.
Et donc, le jeune Toutankhamon, la fin d'Akhenaton est mal connue. Il meurt, et pendant 3 ans, lui succède une dame. On ne sait pas si c'est Néfertiti ou si c'est une de ses filles. Et puis, cette dame disparaît, et à ce moment-là, monte sur le trône le jeune Toutankhamon, mais il a 9 ans.
Il faut dire un mot, peut-être avant, de la grand-mère de Toutankhamon, donc de la mère d'Akhenaton, de Tille.
Hein, la fameuse Tille, c'était une reine qui était l'épouse d'Amenhotep III et elle menait Amenhotep III par le bout du nez. On le sait parce qu'elle a réussi à se faire représenter partout sur les monuments de son mari, Amenhotep III, alors qu'en général, les reines égyptiennes étaient en principe tenues plus de discrétion.
Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on puisse, à plus de 30 siècles d'écart, raconter des révolutions de palais, des évolutions religieuses, etc., qui se sont donc passées au 15e siècle avant notre ère. Vous comprenez que pour une partie de nos auditeurs, ça paraît sans doute un peu étonnant, ça, tout de même. Vous êtes un familier des textes égyptiens, Pascal Vernus, vous baignez dedans, si je puis dire. Mais admettez que pour des profanes ou des néophytes, ça paraisse un peu étonnant.
Mais c'est étonnant. Et ça a traumatisé l'Égypte ancienne. Parce qu'à la mort d'Akhenaton, son nom a été proscrit, on a détruit ses monuments, on a érasé partout son nom là où il figurait, et on est retourné à l'ordre ancien. Alors justement, Toutankhamon a été en quelque sorte le mannequin derrière lequel les deux partisans du retour à l'ordre ancien tiraient les ficelles. Il y avait d'une part ce fameux Haï, le champion de retourner la veste. Et puis d'autre part, il y avait un autre ambitieux. C'était un général, il s'appelait Horemheb. Et Horemheb, lui aussi, il voulait le pouvoir. Et donc Toutankhamon était manipulé par ces deux pharaons, puisque Haï est devenu pharaon. Et lorsqu'il est mort, Horemheb a pris sa place.
On pense donc que Toutankhamon était bien le fils, hein, vous nous dites.
Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, mais vous savez, il faut le doute. J'aimerais que vos auditeurs comprennent que le doute fait partie du travail de l'historien.
Surtout sur des périodes aussi reculées. Hein.
Absolument. Et donc, on peut dire quand même qu'à 98%, Toutankhamon était le fils de Akhenaton. Ça, je crois que c'est pratiquement assuré maintenant.
Et alors, on ne sait pas, comme vous nous dites, qui était vraiment...
Alors, sa mère, était-elle la fameuse Néfertiti, ce qui est possible, ou était-elle une favorite? Par exemple, on sait qu'à un certain moment, Akhenaton a répudié sa femme, Néfertiti. Il y a des gens qui aiment le changement. Hein. Et pour tomber amoureux d'une favorite qui s'appelait Kiya ou Kiyé. Et ensuite, de nouveau, il est revenu vers Néfertiti et les monuments de cette favorite ont été à leur tour érasés.
Alors, c'est un moment très très dramatique de l'histoire, on l'a bien compris. Le tout jeune Toutankhamon monte sur le trône, il a une dizaine d'années. Il meurt dans des circonstances qui aujourd'hui ne sont pas vraiment élucidées, à l'âge de 18 ou 19 ans à peu près. Et son règne aura été celui du retour à l'ordre,
exactement,
en quelque sorte. Donc c'est plutôt le règne de Haï et Horemheb que celui de Toutankhamon, finalement.
Exactement. Alors, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que Toutankhamon s'appelait Toutankhaton à l'origine, parce que son nom faisait allusion au dieu de son père, le dieu
toujours.
Et justement, le retour à l'ordre a été marqué par le fait qu'il a changé de nom. Il est redevenu Toutankhamon, hommage au dieu du dogme traditionnel, c'est-à-dire le dieu Amon.
Alors, un tout petit pharaon, donc une assez petite tombe. Cette petite tombe un peu à l'écart, comme nous l'expliquait Jean-Claude Simoen, et ce qui explique peut-être qu'on ait pu la retrouver à ce point intacte. Et puis surtout, on a construit par la suite, au-dessus, la tombe de Ramsès VI. Alors évidemment, ça a détourné la cupidité.
Pas tout à fait au-dessus, un petit peu sur le côté. Mais vous savez, cette petite tombe de Toutankhamon, quand même, elle avait plusieurs salles. Hein. Elle était petite par rapport aux grandes découverte des grands pharaons. Je pense à Ramsès II, je pense à Séti Ier, je pense à Thoutmose III, qui sont alors des caveaux qui n'en finissent pas, qui sont, je pense même, dans la vallée des reines, à la tombe de la reine Néfertari, qui est exceptionnelle, qui malheureusement est fermée maintenant. Non, ce retour au culte d'Amon est très très intéressant parce que c'est un retour à l'orthodoxie finalement.
Quand vous dites qu'elle est fermée maintenant, les événements qui se sont déroulés
non,
depuis deux ans en Égypte,
pour les événements, vous savez, il y a en gros 60 tombes royales dans la vallée des rois, pas loin de 80 dans la vallée des reines, régulièrement pour bien évidemment des principes de préservation, les Égyptiens à juste titre ferment un certain nombre de tombes. D'abord pour les restaurer et pour éviter que l'afflux touristique détériore l'air que nous respirons, les flashs des photographes qu'on ne peut pas éviter, détruisent considérablement.
Des facsimilés comme pour Lascaux.
Mais oui, mais les Égyptiens n'en veulent pas. Les Suisses avaient offert justement de faire le facsimilé de la tombe de Néfertari, mais les autorités égyptiennes ont refusé en disant qu'ils ne voulaient que de l'authentique. C'est une position qui se défend, mais le problème, c'est que la dégradation se constate. Moi, je peux vous dire, je vais en Égypte depuis 50 ans pratiquement. Et je peux voir d'année en année la dégradation dans les tombeaux. Ça, c'est évident.
Ça a tenu pendant des dizaines de siècles et puis d'un seul coup, là, en quelques années, ça se dégrade à une grande vitesse. Ghislaine nous demande par Internet si je pourrais vous demander, à vous, très doctes invités, quels étaient les outils des sculpteurs qui taillaient le granit. Parce que cette dame est sculpteur elle-même et elle n'arrive pas à tailler le granit. Elle aimerait bien savoir s'ils avaient des pointes spéciales, etc. Je vous remercie de m'aider, nous dit-elle.
Alors, les Égyptiens ne connaissaient pas le fer, ou du moins ils ne connaissaient uniquement le fer météoritique pour des usages très restreints. Et donc on se servait de cuivre et de bronze durci et également d'un travail, d'une patience. Il n'y avait pas d'outils très perfectionnés.
Très sophistiqués.
Même le paradoxe général de l'Égypte ancienne, c'est le contraste entre la sophistication et la perfection de ces monuments et le caractère relativement primitif de son outillage. Ça, c'est une chose qui est intéressante pour les historiens, de voir le contraste entre les deux, la technologie relativement rudimentaire et la sophistication dont j'ai pas besoin de parler.
Pascal Vernus, dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, s'est édité bien sûr dans la célèbre collection chez Plon. Et puis, cette collection est dirigée par Jean-Claude Simoen, qui était également avec nous. L'épopée de l'archéologie, savants et aventuriers, s'est édité chez Fayard. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors, si je vous dis cartophile, si je vous dis dijabutophile, tyrosémiophile, pressophile, je parle de quoi à votre avis?
Je ne sais
pas. Collectionneurs, non?
Collectionneurs,
oui,
bravo
oui.
Julia, de fer à repasser, de factures, de cordes de pendu, de tout ce que vous voulez.
Bah oui, écoutez,
ça existe.
Eh
bien,
hein.
On parle de ça aujourd'hui, de vos passions de collectionneurs. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Vous seriez bibliophile.
Je collectionne les grands moments, moi. Vous savez, les moments émouvants de
l'histoire. J'ai pas le nom pour ça.
C'est joli. C'est un poète. À demain, Franck, sur Europe 1.